Maisons, champs, routes et chemins, usines, forêts, c'est la face de la Terre. Si chacun reconnaît les éléments de son paysage quotidien, il suffit d'un voyage, d'une image, pour être dépaysé. Comment voir et comprendre un paysage? Voir, c'est d'abord nommer. La géographie propose un vocabulaire pour analyser les formes du paysage. Comprendre, c'est reconnaître les relations qui existent entre ces formes, c'est identifier les fonctions qui leur correspondent. Le paysage est un texte qu'il s'agit de rendre lisible. Ce texte a un style, c'est le style d'une société qui aménage et utilise l'espace selon ses besoins, ses techniques, ses idées. 5 paysages du Languedoc, des Garrigues et des Cévennes à la mer, montrent les signes qui expriment l'organisation de l'espace terrestre par les sociétés. Saint-Jean-de-Buège, dans l'Hérault. Une première analyse permet de distinguer plusieurs éléments. Chaque élément présente une utilisation du sol dans un site particulier. En haut, des versants, des corniches et des éboulis calcaires, paysage minéral où la végétation est ouverte. En contrebas, un taillis de chênes verts forme une ceinture végétale continue. Dans le fond du bassin, des parcelles en vigne, des prés au bord de la Buège. À la base des versants, un espace où l'utilisation du sol apparaît moins nette. Au centre du paysage, un village groupé vers lequel convergent des routes et des chemins. Ces voies desservent et relient les éléments précédents. Ce paysage, véritable mosaïque de terroir, correspond à une partie du finage de Saint-Jean-de-Buège. Au sud du village, de grandes parcelles de vignes s'étendent sur une vaste terrasse ancienne, non inondable, de la Buège. Au nord, dans une topographie plus différenciée, les parcelles sont petites. La vigne n'est plus la seule culture. Des prairies occupent le lit majeur de la Buège. Elles profitent de l'humidité permanente du sol, rare en climat méditerranéen. La construction de terrasses sur des versants naturellement soumis aux actions érosives du ruissellement a permis l'utilisation agricole du sol. Ici, des oliviers. Au-dessus de l'espace mis en valeur s'étend une zone où les traces d'anciennes cultures sont évidentes. On y retrouve les murs des terrasses qui soutenaient des parcelles de dimension réduite. Toute cette organisation agraire prend ici un caractère fossile. Elle est peu à peu gagnée par la friche. Le degré de lisibilité du paysage est ainsi fonction du niveau de l'activité agricole. Dans le fond de la dépression, le parcellaire de culture est très net dans certains secteurs. Les vignes ou les oliveraies s'individualisent clairement. Le parcellaire de culture correspond fidèlement au parcellaire de propriété. Cette similitude s'explique par la présence de cultures permanentes exploitées en faire-valoir direct. Dans d'autres secteurs, le parcellaire est plus flou. Les cultures ne sont pas identifiables. Cependant, le cadastre montre une trame d'appropriation aussi fine que dans le secteur précédent. Le parcellaire visible peut donc donner ou non une image fidèle de l'appropriation du sol. Il est cependant plus fragile, plus mobile que le parcellaire de propriété. Au-dessus des cultures, la vigueur de la corniche calcaire signale un accident structural majeur. Des éboulis ordonnés, aujourd'hui fixés, composent les versants en pente régulière au pied des corniches. Corniches et versants sur éboulis témoignent des systèmes morphogéniques aujourd'hui disparus. De cet héritage morphologique, seuls les éboulis ont été exploités par l'homme. Un sol rouge, mince, est associé aux affleurements de calcaire. Il supporte un taillis de chêne vert. Seuls émergent quelques individus plus âgés, aux frondaisons plus sombres, rescapés du feu ou de l'arche. Le village, fortement groupé, est installé dans le fond de la dépression, à proximité de l'eau. Les maisons blocs en hauteur sont jointives. Cet ancien habitat paysan est souvent dégradé et ses ruines doivent être associées aux friches de l'espace agraire. D'anciennes fermes restaurées ont été transformées en résidences secondaires ou en ateliers. Ces nouvelles fonctions manifestent la rupture progressive des liens qui unissaient la collectivité rurale à son cadre de vie. À Saint-Jean-de-Buège, les grandes unités homogènes du paysage dérivent des contraintes écologiques de pente, de sol et d'eau, et l'observation rapprochée révèle la crise de cette société rurale. Dans les Cévennes méridionales, la densité élevée des vallons et des vallées fragmente le paysage en une multitude de versants. Les routes, les chemins, les maisons, les champs, tous ces éléments en ordre dispersé signalent l'humanisation diffuse d'un milieu d'apparence forestière. L'architecture rurale traditionnelle, dans ses matériaux et dans ses volumes, est adaptée au site. L'appareillage en schiste rappelle la nature du socle. Le village de Saint-Martial est perché sur un éperon qui offrait un site défensif. Il domine un espace agricole marqué par le large développement des terrasses. Ce paysage cévenol se caractérise par la discontinuité de l'espace agraire, une grande variété dans l'utilisation du sol, des rapports mal définis entre espace agraire et espace non agraire. C'est à l'échelle de l'exploitation et non plus du finage villageois qu'une certaine logique apparaît. L'utilisation du sol témoigne de la persistance de la polyculture. Vigne, culture potagère, terre labourée, parcelles en herbe, vergers. Des sentiers étroits ou des escaliers relient ces parcelles à la ferme qui s'adapte à la pente et juxtapose des éléments hétérogènes par leur forme et leur fonction. Le logement et son extension récente, les bâtiments d'exploitation traditionnels, le hangar moderne. Le paysage traduit cette conquête et cette organisation individuelle de l'espace. Le morcellement du relief a entraîné la dispersion des sols arables. L'habitat s'est ajusté à ces sites agricoles. Cette adaptation étroite aboutit à une fragmentation du paysage à petite et à grande échelle. Le dispositif agraire est vacuolaire. Si, dans la partie inférieure de la vallée, l'espace agricole et l'espace forestier s'équilibrent, au-dessus de 500 mètres, l'espace non agricole constitue la totalité du paysage. Les formations forestières couvrent les versants jusqu'à 800 mètres d'altitude, puis la forêt s'ouvre et laisse la place jusqu'au sommet à la lande qui accompagne les drailles. Les adrets sont couverts par un taillis sombre, typique du chêne vert. Sur les ubacs se développe la châtaigneraie. sa dégradation exprime la maladie, mais aussi l'absence de soins. Une génération d'aménagement tend à disparaître du paysage. Le paysage de la plaine languedocienne vers Lunel est complètement humanisé. Les contraintes écologiques sont faibles. Ce sont les contraintes économiques qui lui donnent son aspect homogène. L'utilisation du sol montre la place dominante de la vigne dans le système de culture. Quelques vergers rompent la continuité du tapis viticole. Ailleurs, la reconversion du vignoble a diversifié plus nettement le paysage agricole. Les cultures maraîchères et fruitières, asperges, melons, pêches, ont remplacé la vigne dans une trame parcellaire fine. La présence de ces nouvelles cultures permanentes ou annuelles témoigne d'un effort d'adaptation au marché. Cette transformation du paysage est accélérée par l'installation d'une infrastructure hydraulique dont les bornes de desserte ponctuent le paysage agraire. Ailleurs, le vignoble s'étend sur un caillouis grossier. Il entoure un groupe de bâtiments qui appartient à un grand domaine. Cet ensemble est un héritage de l'époque pré-viticole. On y reconnaît des granges et des bergeries. La maison du propriétaire, installée dans un parc, est aujourd'hui désertée par une aristocratie foncière absentéiste. Autour du grand domaine, on identifie des parcelles massives, toutes en vignes. Bâtiments, parcs, grandes parcelles forment un élément de paysage caractérisé socialement et qui résiste aux transformations. Au centre de ce paysage agraire, un gros village se différencie en quartiers. Le centre est dense, sans jardin, composé de petites fermes, maisons blocs en hauteur, disposées le long de rues étroites. À ce centre ancien, s'est ajouté à l'ouest un quartier de pavillons, véritable banlieue de village, installée sur d'anciennes parcelles agricoles. Au nord, près de la voie ferrée, l'habitat pavillonnaire est plus ancien, comme en témoigne la hauteur des arbres, des jardins. Dans les plaines, les paysages ruraux sont dynamiques. Ceci se traduit par le développement d'infrastructures techniques importantes. Des usines récentes montrent les relations nouvelles établies entre l'agriculture et l'industrie. Le paysage pose le problème de l'adaptation de cette société rurale aux investissements massifs de l'État et des industries alimentaires. Des places, des boutiques, des rues, des façades sont les éléments du paysage urbain. Ce paysage peut s'analyser d'abord en observant les caractères de l'espace bâti, style architectural, matériaux employés, organisation des façades. Cet espace bâti est sujet à des remaniements, à des élévations. Ses fonctions peuvent évoluer. la distribution de l'espace bâti et des espaces libres dessine le plan du système urbain. Le plan d'Aigues-Mortes oppose la trame serrée et géométrique de la vieille ville à celle plus aérée des faubourgs. Intramuros, le tissu urbain se caractérise par sa densité. Les espaces libres sont rares, les jardins résiduels. Dans l'ensemble, on constate une grande homogénéité dans l'utilisation du sol. L'unité de base du paysage urbain est l'îlot, espace délimité par des rues. Une vingtaine d'unités de ce type occupent l'espace urbain à l'intérieur des remparts. L'îlot présente du côté de la rue un front de façade aligné qui crée une composition homogène. L'étude du paysage urbain ne peut se limiter à cette approche épidermique. L'intérieur de l'îlot révèle la complexité du tissu urbain. Les constructions secondaires assurent un remplissage très composite. Elles expriment sans doute mieux que les façades les activités, les besoins et les goûts des individus. Ce remplissage a fait disparaître presque tous les vides. Ce paysage différencié représente l'utilisation d'un sol approprié dont le cadastre urbain donne l'image. Nous y retrouvons les îlots et la place observés précédemment. L'espace urbain est divisé en parcelles foncières de taille inégale. L'utilisation du sol, le partage entre le bâti et le non-bâti, crée un état de fait pour plusieurs générations. L'espace urbain présente ainsi une inertie plus grande que l'espace rural. Le remplissage du milieu urbain intramuros ayant atteint un seuil, la croissance urbaine s'est effectuée à l'extérieur de l'enceinte. Les voies de circulation sont plus larges, des espaces non bâtis plus étendus. On reconnaît dans l'espace bâti des éléments anciens qui rappellent les îlots de la vieille ville, des éléments modernes disposés de façon moins serrée, pavillons individuels en lotissement, ensembles d'immeubles collectifs, groupes scolaires associés à ces nouveaux quartiers. Cette banlieue élémentaire présente une diversité morphologique plus grande que la vieille ville. Des contraintes de site ont guidé l'extension urbaine. Elle s'est faite dans les secteurs les mieux reliés à la vieille ville. Ailleurs, les canaux, en créant des solutions de continuité, ont gêné l'urbanisation. La gare, dont l'emprise au sol est importante, occupe la quasi-totalité de l'espace disponible entre les branches du canal du Rhône à 7. À l'ouest, le paysage perd son aspect urbain. Seuls quelques alignements de maisons accompagnent les routes. À proximité immédiate, les cultures résistent. Ces faubourgs traduisent la faiblesse du dynamisme urbain d'Aigues-Mortes. La croissance urbaine a été orientée vers d'autres sites en prenant d'autres formes. La Grande Motte expose les formes des nouveaux paysages urbains. Le paysage procède d'une politique d'aménagement touristique définie par la puissance publique. Son but est de satisfaire une forte demande de séjour en bordure de mer. Cette demande est différenciée selon les catégories sociales. L'organisation planifiée de l'espace urbain répond à ces objectifs. Le plan, les types de construction doivent être adaptés à ces fonctions. Le port artificiel constitue le centre de gravité de ce nouvel ensemble urbain. véritable parking à bateaux de petit tonnage, il vise une clientèle pratiquant la navigation de plaisance et qui ne peut trouver de place dans les anciens ports de pêche. Autour de ce port sont rassemblés les principaux immeubles collectifs. Leur morphologie manifeste un choix architectural uniforme. La plage, élément attractif des anciennes stations balnéaires, est ici à l'écart, en contrebas de la dune littorale qui a été domestiquée par des superstructures de béton et percées de brèches d'accès. En arrière du port et des plages, foyer de l'activité touristique, s'étendent des aires de stationnement, adaptation de l'espace urbain et de loisirs à l'automobile. Ces fonctions de stationnement et d'hébergement se confondent avec les campings établis dans des espaces verts, créés de toutes pièces. Ce paysage urbain s'inscrit dans un parcellaire à mailles très larges. Son caractère hypergéométrique s'explique par un remembrement du sol avant implantation. Les constructions se disposent librement dans ces unités de vastes dimensions. Ce plan aéré ne signifie pas faible densité d'occupation du sol. La hauteur des immeubles est en effet considérable. Les façades de ces collectifs révèlent leur étroite parenté avec les constructions des grandes métropoles. Même matériaux, même subdivision du bâti en cellules standardisées que chaque utilisateur essaie de personnaliser. Ce paysage monogénique à 20 km de Montpellier peut-il demeurer un paysage monofonctionnel ? Les liaisons routières rapides autorisent des relations quotidiennes et favorisent l'utilisation permanente de cette infrastructure immobilière, développant un processus de satellisation par la capitale du Languedoc, Montpellier. L'habitat individuel est surtout développé au-delà de la voie express. Ce mode d'occupation du sol correspond au terrain éloigné du port et de la plage. Ici, la valeur plus faible des sols permet une densité d'occupation moins élevée. Ces secteurs écartés ne contribuent pas à l'image symbolique de la station. Ils sont sans recherche architecturale. Dans un tissu urbain aussi étendu, la voie routière s'impose comme l'élément nécessaire à ce type de croissance. L'habillage des formes urbaines par la publicité est omniprésent. Il emprunte aux valeurs d'évasion du tourisme et réalise un étiquetage du paysage. Le produit immobilier est soumis aux lois du marché et livré en tranches. Ce paysage marchandise appelle des questions sur le rôle de l'État et du secteur privé dans la maîtrise de l'aménagement. Ce paysage n'est pas fait simplement de béton et d'asphalte. Il traduit des flux massifs de capitaux qui alimentent ces chantiers. L'activité touristique crée des contrastes saisonniers violents. Son animation traduit des modalités d'amortissement spécifiques. À l'ouest, le front d'urbanisation montre que le choix initial de l'aménagement en profondeur est déformé par les contraintes du site et que l'emprise au sol de ces nouveaux paysages urbains est considérable et rapide. La Grande Motte montre que la croissance urbaine contemporaine utilise plus d'espace que celle des villes d'autrefois. Le paysage est une réalité qui provoque un travail d'interprétation. Les hypothèses construites à partir du visible doivent être éprouvées scientifiquement. Elles seront soumises à la mesure et aux chiffres, qui, eux, sont absents du paysage.